Musique verte, deuxième partie. Nous voici toujours au milieu de la forêt finlandaise avec un groupe de musiciens venus d'horizons très différents. Pendant cette semaine d'improvisation, les musiciens chercheront à trouver un langage musical commun entre la musique dite verte, c'est-à-dire fabriquée à partir d'éléments de la nature, des plantes, des animaux, des pierres, et la musique composée à partir d'ordinateurs. En Finlande, nous avons une grande variété d'instruments primitifs. Quand on parle d'instruments verts ou de musique verte, il s'agit d'instruments ou de musique faits à partir de matériaux trouvés dans la nature. Mais en général, ces instruments ne vivent pas très longtemps, soit parce qu'ils sèchent ou parce qu'ils se cassent assez vite. Donc je vous ai apporté quelques échantillons de plantes avec lesquelles je fais les instruments. Ceux-ci ont été faits la semaine passée et ne fonctionnent déjà plus. Les premiers instruments ont été les pierres. Et aussi, par exemple, l'écorce de bouleau avec laquelle on fait des appôts. Et à cette époque, il y a longtemps, la musique n'avait pas de fonction d'amusement. La musique servait ici à attraper les oiseaux ou à chasser les animaux. Ou à faire peur aux animaux tels l'ours ou le loup.
Also trumpet style.
Ce son de trompette attire les élans qui sont des grands animaux que vous connaissez peut-être. Dans ces animaux, tout est récupéré, la viande, la peau. On récupérait aussi les bois et la peau pour faire des arcs et des flèches. Le paysage sonore à cette époque était beaucoup plus silencieux. Il n'y avait pas tous les bruits industriels. L'environnement était très silencieux et des instruments comme celui-ci pouvaient exister. Et cette sorte d'instrument très calme a quelque chose de très attirant et de très doux. Ça, c'est un son de corne de vache. C'est aussi un son qui permet de communiquer avec des personnes vivant à plusieurs kilomètres. Un des instruments les plus modernes de la musique verte, qui a à peu près 500 ans, est cette sorte de clarinette faite d'écorce de bouleau enroulée, sans aucune clé ni système mécanique. Ici en Finlande, personne n'enseigne l'art de fabriquer ces instruments verts. Et dans le pays, il n'y a apparemment que moi qui fabrique ce genre d'instrument. J'ai aussi une autre activité, je suis guitariste dans un groupe punk.
J'ai pris, je ne sais pas comment ça s'appelle, une espèce d'herbe creuse là. J'ai essayé de faire le même système, c'est-à-dire que j'ai coupé en deux, et ensuite j'ai taillé dans la même matière une lamelle dedans, le plus fin possible. Je l'ai sorti un peu de travers, et voilà, donc j'arrive à obtenir deux, trois sons. Bon, c'est un instrument éphémère, je pense qu'au bout d'un moment... il ne marche plus.
Jouer d'un appôt pour appeler un oiseau et quelqu'un l'écoute avec une oreille, avec une écoute musicale, une écoute où il recherche quelque chose de musical, il va entendre de la musique, ça va être de la musique. Et après, si quelqu'un est en train de bidouiller un truc dans son coin avec des bouts de feuilles et des papiers et qu'il l'écoute comme de la musique, c'est de la musique aussi. Donc tout est musique, mais il faut juste essayer... Enfin, ça dépend de comment on veut entendre les choses, en fait.
Basically, there's this hole, and this should be on the middle.
Yes.
Now, you can see it.
Yeah.
And there's a space on the up and under it.
Yeah.
So then it works.
Ce qui était intéressant avec ces apôts, c'est que vous pouvez vous asseoir dans la forêt et imiter le son de l'oiseau, même très imparfaitement, et l'oiseau va venir intrigué ou intéressé. Mais il faut quand même une certaine connaissance de la nature pour arriver à imiter le chant des oiseaux avec un apôt. Je m'appelle Martin Dask, je suis compositeur. J'ai étudié aux États-Unis, en Pologne et en Autriche, la musique contemporaine. Et après ça, j'ai beaucoup travaillé pour la radio, fait de l'art audio, de la musique acousmatique. Dans mon travail de musique électroacoustique, j'aime de travailler avec des objets trouvés. Ça veut dire que je cherche les objets dans la nature ou je les enregistre, soit je les trouve sur Internet. Et peut-être un peu plus tard, je vous ferai écouter une pièce que j'ai composée qui s'appelle « Le crocodile blanc noyé par un serpent à sonnette démodé ». J'étais un jour en train de chercher sur l'Internet, puis j'ai trouvé un son de crocodile et j'ai cherché d'autres sons de crocodile. Et j'en ai trouvé toute une série, des vieux, des jeunes, des gros, des petits. J'ai aussi trouvé des sons d'alligators et de serpents à sonnettes. Et ensuite, j'ai fait une composition en utilisant tous ces sons. Et puis, j'ai proposé cette composition à la Radio Nationale allemande. La Radio Nationale m'a ensuite commandé une série de compositions avec un thème par mois, un animal du mois.
To work with bees and bugs and everything.
Tu vois des tapis où, ouais, où un, deux, trois musiciens ils veulent participer,
oui, bien sûr.
Improviser avec ça.
On va
et toi tu,
j'ajoute
toi, tu balances
des
choses.
Ouais.
Je sais pas.
On va commencer comme ça.
Ici, quand on a construit des instruments verts dans la forêt, hein, des petites flûtes, des apôts et tout ça, les autres, ils ont commencé, et toujours, ça m'étonne en fait, ils ont toujours essayé de faire des mélodies harmoniques, classiques, folkloriques et tout le bazar. Et ce serait la dernière idée que j'aurais...
Et où commence, où s'arrête le son et où commence la musique?
Il n'y a pas de différence.
En quelques heures, Martin Dask a rassemblé et introduit dans son ordinateur tous les sons produits par les instruments verts et les instruments recyclés du groupe.
Mmh.
y a juste une différence entre un rythme et un son. Une note, si tu veux. Parce que si tu accélères n'importe quel rythme, à la fin, tu as un son. Une note qui dure. Voilà, si tu ralentis une note, avec des ordinateurs, tout est possible, tu arrives à un rythme.
Mais le fait qu'on considère que c'est de la musique, c'est pas dans la question de l'intention personnelle qui fait que c'est de la musique plutôt que du son. Est-ce qu'il y a la démarche de faire de la musique qui fait que c'est de la musique? Si je pianote avec mes doigts sur une table, ou si je...
Si c'est volontaire, c'est probablement de la musique. Les mouches qui tournent autour du micro ici, c'est pas de la musique comme ça. Je crois qu'il faut... Qu'est-ce que la nature fait? Il faut... Comment dire? Faut changer de niveau. C'est comme Marcel Duchamp a fait avec des objets trouvés. Ah, quand il trouve un truc pour laisser sécher des bouteilles, il tourne ça dans l'autre sens, il met ça dans un musée, il a changé le contexte, et du coup, c'est de l'art. Et finalement, tout le monde est d'accord. Si on mettait cette putain de mouche dans une petite, une boîte à allumettes, Namjoon Paik, il a fait des choses comme ça, et tu vas avec cette boîte sur scène, avec un public et tout, et tu ouvres la boîte et la mouche s'en va en faisant du bruit. Là, c'est de la musique. Voilà.
Un jour, Miguel Arcos était occupé à faire des rythmes sur une vieille carcasse de lave-vaisselle récupérée dans la décharge lorsque quatre motards sont arrivés en pleine forêt et nous les avons invités à se joindre à nous pour créer une composition à partir des sons de leur moteur.
Vous pensez que le hasard a une place dans la musique?
Absolument, depuis toujours.
Oui.
Oui. Il y a aussi, en plus, il y a une belle référence entre image et son. Par exemple, tu es dans un café où il y a de la musique et tu regardes les gens à l'extérieur qui se baladent, qui se promènent. Ils se baladent et se promènent toujours dans le rythme de la musique qu'ils n'écoutent pas. Qui peuvent pas entendre parce que c'est à l'intérieur, mais ça marche toujours ensemble, c'est synchro. Et ça aussi, c'est pas synchro, c'est des rythmes complètement différents, mais ça marche.
Il y a un moment où il faut structurer, on ne peut pas éternellement improviser. Si on crée, si on voulait créer une musique, si on restait plus longtemps, qu'est-ce qui se passerait en fait?
Il se passerait de toute façon qu'on se donne des formes, des contraintes, des règles. Ça peut être abstrait, ça peut être un peu hasard là-dedans, mais je crois qu'on finirait à trouver des règles.
C'est mieux pour la création d'avoir des contraintes?
Je crois qu'il faut des contraintes pour... Ou il faut un cadre. Il faut un cadre pour le casser. Si t'as vraiment pas de cadre, bon, c'est amusant d'improviser ensemble. Ça dure toujours trop longtemps. Et ça amuse les gens qui jouent, mais pas forcément le public. Mais si t'as un cadre... Et tu trouves le cadre est chiant, mais tu le casses et tu gagnes avec ça. Beaucoup. J'utilise 10 sons différents dans une minute. Ça, c'est une contrainte. Et si tu as l'impression qu'il y a des belles choses qui sortent, c'est bien. Si tu as l'impression que non, c'est un ennuyant, bah, tu prends un 11e son. Ou tu fais ça pendant 2 minutes. Ou tu t'arrêtes après 30 secondes. C'est égal, mais tu as le choix de faire quelque chose.
Le fait de briser la contrainte est aussi un acte qui aide à la création.
Oui, c'est un acte très créatif, je trouve. Ils ont toujours fait ça, les compositeurs. Ils ont créé des formes comme, je sais pas, une sonate. C'est assez strict au début. Un thème, un autre thème, etc. Et puis, une modulation, etc. Et puis quelqu'un a découvert qu'on peut casser ça. Allez, on reste pas comme ça. Et ça, oui, c'est presque une évolution, si on veut. Et là, il n'y a pas de règles. Et ça aussi, c'est une évolution. Et donc, moi, je trouve, personnellement, que c'est pas mal d'avoir des cadres. Je crois qu'on peut faire une démarche intellectuelle pour tomber sur certaines choses, comme tu as dit tout à l'heure. On peut souffler dans la trompette du mauvais côté. Si on commence avec une pensée intellectuelle, juste pour essayer ça, c'est pas encore forcément de la musique, mais là, ça peut devenir de la musique si on en fait quelque chose. Voilà.
Mais c'est finalement une définition très, très subjective, la musique. Ça, ce qui est de la musique pour celui qui la joue n'est pas forcément pour celui qui l'entend, et vice-versa. Mmh,
ça, c'est vrai.
Donc on peut faire de la musique sans le savoir, et quelqu'un peut trouver ça musical.
Ah, mais oui. C'est un peu comme aimer quelqu'un. Hein? Tu aimes quelqu'un, mais une autre personne... n'aime pas la même personne. Ça, la musique, c'est vraiment très subjectif.
On utilise des chaussures avec caoutchouc, plastique, on utilise des voitures. Moi, je suis ouvert à utiliser toutes les possibilités pour faire des sons, quoi. Pour chercher de nouveaux sons, d'apprendre chaque fois, quoi, avec chaque chose. C'est vrai qu'après, c'est un peu bizarre de mélanger la nature avec le plastique et tout ça, tu vois. Mais pour moi, il faut arriver à un équilibre. Parce que les sons, c'est le son, quoi. Tu vois, il n'y a pas une différence. Voilà. Pour moi, la vibration, tu vois, c'est une énergie qui abarque tout l'univers, quoi. Tu vois, les gens. Ça, c'est l'important pour moi. Après, le matériel avec quoi je m'exprime, ça peut être... toujours en plastique ou toujours en bambou. Il ne faut pas se fermer, tu vois, à dire « Ah, le bambou, c'est vraiment la nature et tout. » Tu vois. Mais il faut trouver l'équilibre. C'est très intéressant pour moi, en fait, de voir comment chacun il peut se donner petit à petit, rentrer dans une énergie groupale, quoi. Groupale. C'est bien, ça. Toujours, j'ai bien aimé ça. Parce que, par exemple, Anouka ou Bruno, tu vois, ils sont bien dans la tradition et tout. Ils se ouvrir un peu... À faire une autre chose, c'est pas évident. C'était pas évident, hein. Déjà pour Bruno, quand j'avais parlé le premier jour, le deuxième jour, il était un peu perdu, quoi. Il était un peu perdu. Il lui avait dit, mais qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'on va faire, là? Je lui ai dit, une expérience, quoi. Mais après, en fait, il a bien participé, quoi. Et le morceau qu'on a travaillé là-bas, c'était bien. Mais c'est vrai que c'était à nous plutôt de s'adapter, tu vois. Et je pense qu'il pouvait faire des autres choses aussi, mais je pense que chacun, il a donné le mieux possible, quoi.
Mais le principe, on connaît. Mais de mettre ça ensemble avec des styles différents, évidemment, Équateur, le centre de la France, j'ai jamais entendu des danses pareilles sur l'accordéon. Et je trouve que c'était une belle rencontre entre la musique verte avec des instruments fabriqués de la nature et électronique. Mais c'est un début, quoi. On pourrait faire beaucoup plus ensemble. C'était un peu quand même les électroniciens, les computer freaks, ils étaient un peu à part des autres.
Bah, pour moi, la musique, c'est ça. C'est vraiment s'amuser, vraiment trouver un truc intérieur joli avec tout le monde, quoi, tu vois. Partager. C'est ça, la musique, pour moi, toujours. Comme un enfant, quoi, tu vois, qui cherche, qui vit les sons. Moi, j'ai envie que tout le monde soit bien. Ça.
Nous voici au terme de cette semaine d'improvisation verte dans le cœur de la forêt finlandaise. Toutes les conditions étaient réunies pour un travail musical hors norme. Le soleil de minuit, le silence de la forêt, la magie du lieu où nous habitions et les personnalités très riches et très différentes de chacun des participants. Cet atelier expérimental de la Fondation internationale Yehudi Menuhin fait partie du projet européen EXTRA de l'European Music Council. Merci aux musiciens Miguel Arcos, Lisa Dangot, Martin Dask, Anuka Hirvasiopio-Laiti, Johanna Nirinen, Guillaume Rabusso et Bruno Sabala. Merci à Marianne Poncelet et Frédéric Chabot de la Fondation Yehudi Menuhin. Merci à Ulla Salomaki, à Aulis Younes, Mauno Jarvela et l'école de musique de Kostinen. Réalisation, montage, mixage, Thierry Van Roy. Pour Les Grands Lunaires, ASBL. Avec le concours du Fonds d'aide à la création radiophonique de la communauté française de Belgique.
On.
Mitä soititte äsken?
Mitä soititte?
Et soititte äsken sitä, että...
Joo.
Tämä kurkka pois.
Anna iloinen olla, jos suru tulee. Anna hänen mennä. 1, 2, 3, 4. Anna iloinen. Rummun päälle ja koko maailma pauhaa.
Kiitos.